Géopolitique, le débat, Richard Labévière.
Géopolitique, deuxième partie de notre édition consacrée aujourd'hui au dossier libanais et à ses composantes régionales et internationales en compagnie à Paris de Regina Sneifer, auteur de « J'ai déposé les armes » aux éditions de l'Atelier, et puis à Beyrouth de l'historien, ancien ministre Georges Corme, dernier ouvrage paru, « L'histoire du Moyen-Orient » aux éditions La Découverte. Avant le journal, on parlait évidemment des événements, des confrontations du 7-8 mai qui ont abouti à la médiation à Qatar, le processus de Doha au déblocage de la situation. Georges Corme, vraisemblablement après ce déblocage, on s'achemine aujourd'hui vers la formation d'un gouvernement d'unité nationale qui reprendrait la formule 16-3-11, hein, 16 Marocains pour la majorité actuelle, 3 pour à la discrétion du président de la République et 11 à l'opposition. Bon, un gouvernement d'union nationale, ça a déjà été essayé, la formule n'a pas vraiment marché la dernière fois.
Non, la dernière fois, le gouvernement était issu de la grande coalition électorale à laquelle s'était jointe le Hezbollah. Entre les deux alliés, les trois alliés traditionnels de toute la période syrienne, qui étaient Amal de M. Berri, le président du Parlement, qui était M. Joumlat, et qui était le groupe Hariri, auquel s'est joint aussi le Hezbollah. Et il a payé très cher cette coalition électorale parce qu'elle a permis de donner une majorité parlementaire assez artificielle au groupe actuel gouvernemental. Et normalement, dans une logique démocratique, une fois que, si vous voulez, l'accord était rompu, que les partis ne s'entendaient plus puisque Amal et le Hezbollah se sont retirés du gouvernement, ont protesté contre beaucoup d'actes que prenait le gouvernement et qu'ils estimaient malvenus. À ce moment-là, normalement, le gouvernement aurait dû démissionner. Et la demande est venue de démission et puis de gouvernement d'union nationale où, à ce moment-là, on redistribuait les cartes, c'est-à-dire que l'opposition, qui a aujourd'hui un nombre important de députés, je crois que la proportion est 45 contre 55, aurait dû avoir un nombre de sièges équivalent à son poids dans le Parlement, puisque Hezbollah et Amal avaient quitté la coalition dans laquelle ils étaient avec les Haririens.
D'accord, ça on comprend bien pour le passé, mais pourquoi aujourd'hui, je dirais, un gouvernement d'union nationale finalement est plus envisageable et plus crédible qu'il pouvait l'être à travers un replâtrage de la situation dont vous venez de parler?
Non, alors écoutez, je pense, enfin, une des conditions de succès de ce gouvernement national, ça sera quand même que cette espèce d'esprit dictatorial et aveugle que M. Signor a employé va cesser et que l'idéal serait qu'on ait un Premier ministre qui soit neutre, qui n'appartienne pas au courant du futur de M. Hariri. Mais je crois que ce ne sera pas possible. Mais au moins, si c'est M. Saad Hariri ou quelqu'un d'autre, il ne faudrait pas que ce soit M. Signora. Si c'est M. Signora, je crois que ça ne marchera pas du tout. Donc il faut espérer que le choix, là aussi, que le Parlement actuel va avoir la sagesse
d'avoir un choix plus consensuel. Regina Sneifer, un des points d'accord de Doha, c'est justement de ne pas avoir parlé de la grande question des armes du Hezbollah, que le processus de Doha n'a pas abordé, n'a soigneusement pas abordé, question récurrente qui nous ramène à la fameuse résolution 1559 de septembre 2005. Alors, bon, là, quand même, cette question va être quand même comme une épée de Damoclès, si je veux dire, sur ce nouveau gouvernement d'union nationale.
Écoutez, ça fait partie, je pense, d'une solution. Les armes de Hezbollah ne peuvent que faire partie d'une solution globale. Et on l'a souvent précisé, les leaders de l'opposition, qu'il faut penser, après que la situation politique soit un peu stabilisée, à un plan de sécurité globale. Sans ça, sous la menace israélienne permanente sur le Liban, on ne peut pas parler des armes de Hezbollah avec des mesures aussi hâtives telles que les mesures prises par le gouvernement Senyoura. Alors c'est un sujet bien sûr à traiter, c'est un sujet à discuter, mais dans une ambiance peut-être de dialogue, d'ouverture, et puis dans un plan beaucoup plus global et large.
Georges, quand vous partagez ce point de vue qui consiste à dire que la question du désarmement du Hezbollah n'est pas qu'une question libano-libanaise, mais régionale, globale finalement, qui nous ramène invariablement au conflit israélo-palestinien. Rappelons que 400 000 réfugiés palestiniens sont toujours dans des camps au Liban.
Oui, moi je crois qu'il y a une solution intermédiaire qui avait été esquissée dans le document d'entente entre le général Michel Aoun et le Hezbollah à la fin du document, et qui a fait réfléchir beaucoup de monde sur les formules possibles d'intégration du Hezbollah dans l'armée libanaise. Et ça serait une formule de garde nationale populaire qui serait aux frontières, tout au long des frontières, aussi bien avec la Syrie qu'avec Israël, mais qui ne serait pas évidemment un désarmement du Hezbollah.
On revient au cadrage de cette armée libanaise et à l'attribution des principaux ministères régaliens, défense, justice, finance, justement dans la répartition de ce fameux gouvernement 16-3-11 d'Union nationale.
Oui, je crois que cela va beaucoup jouer. Je pense que ce dialogue sur l'intégration, il ne faut pas parler de désarmement du Hezbollah.
Mais d'intégration du Hezbollah dans l'armée libanaise.
Oui, c'est plus une intégration plus forte dans l'armée libanaise, parce que, j'insiste et je reviens, il était faux de dire que le Hezbollah était un État dans l'État, c'est un État peut-être à côté de l'État, mais en coordination avec les services de sécurité et avec l'armée, c'est ce dont j'ai été témoin. Ça n'est pas cette espèce d'organisme fou tel qu'on nous le présente. Évidemment, l'enlèvement des deux soldats israéliens au cours de l'été 2006 avec Israël qui nous a bombardés pendant 32 jours a servi d'aliment de propagande à tous les anti-Hezbollah. Mais il s'agit, à mon avis, d'augmenter beaucoup plus la coordination. Une armée régulière, même si elle était beaucoup plus puissante que l'armée libanaise, n'a aucun moyen de faire face à Israël si Israël a des velléités de réattaquer ou de réentrer ou de réoccuper le Liban.
C'est ce que rappelait Regina Snaifer, mais d'autant que là, je reviens toujours aux simplifications de la presse occidentale, Regina Snaifer, d'autant qu'on a souvent l'impression, à lire la presse occidentale, que le Hezbollah n'est pas constitué de Libanais, mais est seulement réduit à sa formule le bras armé de l'Iran.
La presse occidentale, elle est imprécative dès qu'il s'agit des questions du Moyen-Orient. Il n'y a plus jamais d'analyse, il n'y a plus rien. C'est totalement idéologisé et qui ne regarde pas du tout la complexité des réalités de terrain, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie, chez nous, en Irak.
Alors, on va poser la question de la presse et du traitement de la presse à Regina Snaifer, qui vit à Paris, justement. Oui. Quand vous lisez les événements de votre pays dans cette presse, quelle est votre réaction, finalement?
Écoutez, je ne peux pas m'empêcher à revenir à mes références, qui sont des références de guerre. Et moi, j'ai fait un travail sur l'analyse de cette guerre 75-90, qui m'a poussé à participer à cette guerre-là. Et effectivement, ce sont des idéologies fabriquées qui réveillent des passions. Et malheureusement, le Liban est toujours, aujourd'hui, un laboratoire pour ces puissances étrangères qu'elles regardent en tant que telles et qui essaient comme ça certaines formules pour que les formules communautaires, c'est celles qui marchent le plus. Aujourd'hui, Hezbollah, ce que vous avez dit est très vrai. Hezbollah n'est pas une entité étrangère au Liban, ce sont des concitoyens. Moi, je ne veux plus diaboliser, je ne veux plus tomber dans le piège de la diabolisation de l'autre. Je suis libanaise, ils sont libanais. Il y a eu des erreurs de tous les côtés, il y a eu des erreurs des baronites dans le temps, il y a eu des erreurs des sunnites, il y a eu peut-être des erreurs des chiites. Maintenant, nous sommes tous libanais, nous devons construire cet État ensemble, trouver ce grand un politique dans lequel on peut travailler en dehors des passions communautaires, en dehors des idéologies et des centres d'intérêt des uns et des autres.
Géopolitique, le débat, Richard Labévière.
Géopolitique, dernière partie de notre édition consacrée aujourd'hui au dossier libanais et à ses composantes régionales et internationales en compagnie à Paris de Regina Sneifer, auteur de « J'ai déposé les armes » aux éditions de l'Atelier, et à Beyrouth de l'historien ancien ministre Georges Corme, dernier ouvrage paru « Histoire du Moyen-Orient » aux éditions La Découverte. Georges Corme, ces derniers rebondissements libanais vont-ils, enfin ce déblocage même, avec quand même une élection annoncée et en cours, on peut dire, du président de la République Michel Sleiman, ces développements vont-ils détendre l'atmosphère régionale ou au contraire conforter les États-Unis dont vous avez parlé de diabolisation, mais en tout cas dans leurs menaces de nouvelles opérations militaires contre l'Iran?
Écoutez, je sais que ça fait un an et demi, deux ans qu'on reçoit des analyses en provenance des États-Unis très alarmantes sur le désir de Bush, de Cheney, de toute l'équipe des néoconservateurs d'en découdre, tantôt avec la Syrie, tantôt avec l'Iran. Actuellement, c'est plus sur l'Iran. On voit que la Syrie est plutôt épargnée dans les discours et les médias occidentaux. Est-ce qu'ils ont voulu calmer le jeu sur la scène libanaise, donner satisfaction aux revendications de l'opposition pour que la scène reste complètement figée au cas où il y ait des opérations militaires d'une nature quelconque contre l'Iran? Je ne sais pas. Ça peut être une explication. Maintenant, d'autres analyses disent c'est terminé. Bush est sur la sortie. Toute l'équipe qui gouverne les États-Unis ne peut plus se permettre une telle action.
Regina Sneifer, vous rentrez tout juste de Beyrouth. Hein. Vous étiez à Beyrouth, dans votre pays, pendant les confrontations du 7-8 mai. Craint-on une intervention militaire contre l'Iran ou voire la Syrie, et ce malgré cette médiation réussie du Qatar?
Je pense que ce que l'on craint surtout au Liban, c'est une guerre interne. On craint de revivre une nouvelle guerre civile.
Dans la mesure où on sait très bien que ce danger de guerre civile dépend largement d'agendas extérieurs des puissances régionales, voire internationales, avec une dualité un peu schématique, mais d'un agenda américano-saoudien-israélien sur l'agenda du 14 mars, et sinon un agenda syro-iranien. Pour l'opposition, c'est un peu, là aussi, de manière un peu caricaturale, comment les choses sont présentées, mais est-ce que les Libanais ont intégré le fait qu'une intervention américaine contre l'Iran pourrait aussi avoir des conséquences et des retombées libanaises?
Moi, j'ai trouvé cette fois que les Libanais ont gagné beaucoup en maturité par rapport à ma génération à l'époque de la guerre, et beaucoup aujourd'hui conçoivent que les États-Unis nous utilisent comme, je vais utiliser une expression du général Aoun, comme un marchepied pour appliquer sa stratégie dans la région. Alors, je pense que cette lucidité de beaucoup de Libanais va nous aider à un peu être à l'écart de ces plans stratégiques américains de la région. D'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui le prouve. Le soutien extérieur au gouvernement Hariri n'a pas résisté à la pression interne et à la base populaire. Alors, je pense que nous avons gagné en maturité, en lucidité, et je pense que le Libanais aujourd'hui refuse que le Liban soit le laboratoire et le marchepied des puissances étrangères pour la région.
Cela dit, Georges Corme, en réaction à ce que vient de dire Regina Sneifer et reprenant les propos du général Aoun d'un Liban marchepied, au-delà de l'Iran, si on voit les composantes internationales de la situation du Liban, au-delà de l'Iran, peut-on penser et rêver d'une stabilité durable pour le Liban tant que le conflit israélo-palestinien n'est pas résolu de manière équitable?
Écoutez, la difficulté de l'équation libanaise, c'est non pas tellement de s'extraire du dossier palestinien, parce que nous sommes, d'abord nous avons les réfugiés, et nous sommes contigus à l'État d'Israël, mais, si vous voulez, de se protéger autant que possible. Hein. Et là, bon, pour cela, à mon avis, à partir du moment où il ne peut pas y avoir d'accord, malheureusement, pour une neutralisation militaire du Liban, hein, sur laquelle j'ai moi-même travaillé avec d'autres dans le temps, oui. Parce que le Liban est instrumentalisé, justement, et même les puissances occidentales n'ont aucun intérêt à le faire. Il est donc important qu'on ait ce système de défense fort, qui soit dissuasif vis-à-vis d'Israël, et qui fasse aussi que les querelles interpalestiniennes ne fassent pas éclater les camps palestiniens chez nous au Liban, parce que malheureusement, les querelles interpalestiniennes actuelles, où M. Mahmoud Abbas est soutenu par les États-Unis, par l'État d'Israël, par l'Union européenne, se traduisent aussi au Liban par ce soutien complètement hors norme qui a été donné à M. Signoret avec un gouvernement qui excluait plus de la moitié des Libanais. Donc, il y a une forte responsabilité des puissances occidentales qui gèrent ce dossier du Moyen-Orient, disons-le, de la façon la plus catastrophique qui soit. Et tant que vous aurez un État qui est au-dessus des lois internationales, qui est l'État d'Israël, il sera très difficile de stabiliser la région. Et évidemment, l'Iran continuera d'avoir un profil très haut, alors que les plus grands pays arabes, les plus forts, l'Égypte, l'Arabie saoudite, sont collés à la politique américaine. C'est ça ce qu'il faut changer pour que, finalement, non seulement le Liban, mais les Palestiniens respirent chez eux aussi, et que pour le régime syrien aussi puisse récupérer le Golan, et qu'il n'ait pas la tendance qu'il a eue pendant les 30 dernières années d'instrumentaliser le Liban aussi comme carte pour récupérer le Golan.
Alors justement, après ce tour régional et international, Regina Steinfer, au début des années 60, revenons au Liban, au début des années 60, le président Fouad Chehab a échoué sur la persistance du confessionnalisme libanais. Pour reprendre le titre de votre ouvrage et déposer des armes, que faire aujourd'hui cette bonne nouvelle de Doha et un président et un déblocage de la situation politique libanaise? Quels sont les besoins les plus impératifs de la société libanaise pour conquérir cette stabilité durable, indépendamment des écueils régionaux?
Écoutez, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Effectivement, mon chemin pour sortir de la guerre et de ses violences et pour construire mes idées est un chemin peut-être solitaire, un chemin individuel, un chemin peut-être de conscience, mais on ne va pas attendre les démarches individuelles pour construire un État. Le temps presse. Et il faut effectivement que c'est le rôle de la politique au Liban. Il faut qu'on retrouve une politique et qu'on reconstruise notre espace public en dehors des rivalités communautaires, et je pense que la seule solution pour ne pas retomber d'une façon régulière dans des crises et dans des guerres futures. Alors la maturité personnelle, individuelle est très importante, je pense qu'il faut travailler, parler, mais surtout c'est le rôle de la politique, c'est la politique saine qui peut nous faire éviter de nouvelles guerres.
Georges Cormes, un mot de la fin sur l'avenir du Liban compte tenu justement de l'aboutissement positif du processus de Doha?
Non, écoutez, moi je suis un peu comme Regina, c'est-à-dire que je mise sur tous les Libanais de bonne volonté. Effectivement, je reprendrai ce qu'elle a dit il y a quelques instants. Les Libanais, je parle de la société civile, la population, elle était déjà mûre, à mon avis, dans les années 75-90. Elle a contribué à empêcher le démantèlement du pays, n'est-ce pas, sa cantonisation en canton sous occupation israélienne, canton sous domination syrienne. Et je crois qu'il y a un certain héroïsme que personne ne regarde chez les Libanais de bonne volonté, que j'appelle les soldats inconnus, que nous n'honorons jamais, qui sont ces Libanais qui restent, qui ne fuient pas le pays, qui font leur travail quotidien, qu'ils soient fonctionnaires ou qu'ils soient des employés du secteur privé, dans les pires circonstances de violence, afin que le pays continue de tourner et de rester uni. Moi, je crois que ça, c'est une victoire du peuple libanais que personne ne regarde. On regarde toujours les chefs politiques, on regarde toujours les discours flamboyants et radicaux. On ne regarde jamais la réalité d'un peuple qui se refuse à mourir sous toutes ces interventions externes. Pensez qu'en 75 et 90, on a dû avoir 15 ou 20 armées différentes qui sont rentrées et sorties de ce pays.
Voilà un beau regard, Regina. Un beau regard, une belle évocation de votre pays, non?
Oui, absolument. Mais je crois que c'est la solution. Je crois que le Libanais, effectivement, est plein de ressources. Il l'a montré. C'est un Libanais qui réussit partout ailleurs. Au Liban, il réussit. Il peut réussir aussi au Liban.
Regina Steinfer, Georges Cormes, merci à tous deux. Je rappelle, Georges Cormes était donc depuis Beyrouth, nous parlait depuis Beyrouth. Donc, je rappelle également que J'ai déposé les armes est paru aux éditions de l'Atelier, que les ouvrages de Georges Cormes sont disponibles aux éditions La Découverte. Je vous conseille Histoire du Moyen-Orient. Et puis aussi des livres de Madame Steinfer et de Monsieur Cormes disponibles aussi en arabe chez l'éditeur libanais Al-Farabi. Merci aussi à Marie-Hélène Rollin pour la réalisation et à Pierre Bilot pour la mise en onde. À la semaine prochaine. Restez avec nous pour un nouveau journal sur RFI dans une poignée de secondes.